mon programme en trois points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi.
CO2, mon amour.
Les défenseurs de la nature ne réclament pas une croissance à tout prix qui aliène l'homme, mais une croissance nouvelle, contrôlée, humaine.
Vous parlez comme une femme qui n'a jamais travaillé.
Espèce de tyran, despote, rétrograde. Non, arrête où je dis tout.
Je ne sais rien, je ne disais jamais rien.
La comptabilité.
Laquelle?
La vraie.
Denis chez Sou.
Elle est cachée.
Oui, je sais.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, parce qu'on n'attend pas le changement mais que nous sommes le changement, avec aujourd'hui à la technique Charles Danet et Ludovic Asselot, et assisté de Claire Destacan, sans oublier Xavier Pessoudja qui réalise l'émission. Vous l'avez compris, donc Alain Beaugrain-Dubourg, notre invité aujourd'hui, notre fil conducteur avec cet ouvrage « Il faut continuer de marcher ». On va y revenir sur ces mémoires, oui, il faut le dire. Alors, bon, Alain, je crois que vous avez l'habitude, ça commence par un petit billet d'humeur. Hein,
voilà. Oui, mais que j'écoute avec attention.
On va y aller. Éradiquer, nettoyer, brûler, démembrer les rivières, flinguer, on adore ça. Tout, on tire sur tout. Le diable, le danger, l'étranger, le vilain petit canard, le sournois, l'autre, le renard, Michel Onfray, les sorcières, le loup, que sais-je. Mais cette semaine, notre héros du jour, The Winner, is le méchant bouquetin porteur de virus. Sur les pentes ensoleillées du Bargy vers le col de la Colombière en Haute-Savoie, suite à une convocation amicale qui leur fut adressée par monsieur le préfet, 200 à 300 bouquetins se sont gentiment présentés devant le viseur de plusieurs carabines. Les cabris de l'année, donc les John, allez hop, inclus. Super préfet a frappé, super préfet n'a pas d'oreille, il écoute que son devoir et le devoir résonne dans les vallons comme un deux coups superposé. Pourtant, toutes les études et tous les avis sont convergents, du rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à l'avis du Conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'avis du Conseil national de protection de la nature, à celui des différents vétérinaires, François Moutou en tête, et spécialiste du bouquetin. Non seulement l'abattage de la totalité des bouquetins est illusoire, mais le risque est grand d'une dissémination à d'autres massifs par la dispersion des quelques animaux qui n'auront pas répondu à la convocation de se faire tirer comme des lapins. Alors il faut enrayer l'épidémie de brucellose qui risque de décimer les troupeaux montagnards. Maladie tout à fait sérieuse, mais que l'on peut réguler si on la prend absolument à temps. Le bouquetin est porteur du virus. Tuons le bouquetin. Or, il en est comme dans la fable de la rage et du renard. C'est pas en massacrant la bête qu'on règle le problème, car aussitôt son territoire vidé, il est occupé par un autre individu, possiblement atteint. Et non, c'est en abattant les bêtes malades, certes, en suivant les animaux sains, et en vaccinant avec des appâts traités qu'on élimine le mal. Alors pour la première tranche de travaux, un lot de bouquetins avait déjà servi de carton de tir de fête foraine en octobre 2013 et ça a aggravé le problème. Alors on s'est dit, tant qu'à canarder, à la seringue hypodermique, autant y mettre des cartouches et qu'on en finisse. Méthode délicate et scientifique, on vous dit. Jeudi, la région était bouclée. Tourne les hélicos, le massacre à grand spectacle d'une espèce emblématique qu'on a eu du mal à réintroduire peut commencer dans l'indifférence générale. Ah bah oui, touche pas à mon reblochon, c'est plus sacré qu'une vache indienne là-bas. À mon avis, dans le ciel, il manquait juste un rafale, notre fierté nationale. Et surtout, faut pas traîner, hein, la patrie est en danger. Oui, foutez-moi en l'air ces grosses chèvres qu'on voit sur les cartes postales, hein, ordonne le préfet. On va en regarder, allez, 50, 70, on verra bien. Et oui, il faut aller vite. Parce que dans 10 jours, le recours juridique déposé par les associations écologistes sera examiné. Et là, ça risque de pas être forcément bon pour l'État, donc faut les prendre de vitesse. Et vous allez voir, on a une actualité là qui vient de tomber. Or, un autre petit détail quand même pour terminer, mais qui a son importance. La brucellose a ressurgi dans une exploitation laitière du sud du massif du Bargy en avril 2012, entraînant la contamination donc de 2 personnes. Bon, mais à l'ENA, le programme à ingurgiter est chargé. Et on n'a pas de cours là-dessus. Alors, cher Alain Beaugrain-Dubourg, ça vous ne mentionnez pas, dans il faut continuer de marcher, bien évidemment. Mais on a évidemment une actualité. Bonjour Alain, d'abord.
Bonjour Denis. Beau papier. Hein.
Bah, vous êtes gentil.
C'est du vécu.
C'est du vécu. Non, mais c'est vrai que la région d'abord est superbe, faut le dire. Et puis là, on a pris les grands moyens alors qu'il y avait d'autres choses manifestement à faire. Et alors, on a quand même une actualité parce que Ségolène Royal a dû bouger là.
Oui, je suis vraiment scandalisé par cette situation. Grâce à l'action conduite par des associations comme la LPO, la FRAPNA, FNE et la Fondation Nicolas Hulot, j'ai j'ai eu Nicolas il y a quelques instants au téléphone qui est intervenu en faveur de ces bouquetins. Ça y est, on a suspendu les tirs, simplement, on a abattu 70 bêtes en attendant qu'il y ait le recours. Et je dois dire que dans ce pays où on se flatte tant de faire référence aux scientifiques, ne pas tenir compte de leur avis me paraît scandaleux. Et voyez-vous, Denis, moi je suis fier de cette France dans laquelle nous vivons. En termes de biodiversité, c'est actuellement au plan européen l'épicentre de la biodiversité européenne, et avec le réchauffement climatique, cet épicentre pourrait remonter jusqu'au sud de la péninsule scandinave. Donc, je suis fier de cette France dont on dit au plus haut niveau que il convient qu'elle soit exemplaire, notamment en termes de biodiversité. J'ai honte pour mon France quand, dans le même temps, on va abattre des bouquetins sans tenir compte de l'avis des scientifiques, quand dans le même temps on considère que les vautours sont des prédateurs, quand dans le même temps on imagine très volontiers qu'on pourra abattre des loups en plein cœur de parc national, quand dans le même temps on met de la glu, cette méthode artisanale scandaleuse qui capture des milliers de petits oiseaux, souvent protégés, dans un parc national. Et je pourrais poursuivre comme ça à l'infini. Alors, la conclusion, c'est quoi? C'est qu'il y a deux discours. Il y a un discours des hautes sphères, où on est fier de notre France.
Et, là, on
et puis, il y a un autre discours qu'on
ça.
Cache. Ouais. Oui, alors là, on convoque les scientifiques, hein, qui font des rondes-jambes devant les politiques au plus haut niveau, mais sur le terrain, on les écoute plus, ces scientifiques. Et c'est pas bien. Alors, ayons au moins l'honnêteté de nos engagements. Si vraiment on veut dézinguer la faune sauvage française alors qu'elle agonise, qu'on le dise, mais qu'on prétend pas être les meilleurs ici-bas.
Voilà, bah c'est très bien. Vous voyez, c'est une très très bonne entrée en matière. Je trouve qu'on est absolument en plein dedans. D'ailleurs, vous l'évoquez aussi avec vos combats donc dans cet ouvrage. Donc, il faut continuer de marcher. Qui quand même a commencé pour vous. Mais alors, vraiment gamin, c'est ça, c'est très intéressant. Vous l'évoquez très très bien dans cet ouvrage édité chez La Martinière. Ça a commencé du côté de 10 ans, quoi. Dans une famille où c'était pas si évident que ça, parce que vous étiez un petit Parisien. Et puis, bah, vous êtes arrivé en plus avec des animaux qui ont, comme on dit, un délit de sale gueule. C'est-à-dire que vous adorez les serpents, quoi.
Oui, j'étais petit Parisien. Vu les mauvais résultats scolaires, on m'a envoyé au lycée Eugène Fromentin de La Rochelle, en me disant, ben là au moins, parce que j'ai eu la chance de naître sur le bon trottoir, dans un milieu plutôt bourgeois, là tu vas voir ce que c'est que la réalité de la vie avec les fils de marins pêcheurs. Je veux dire que j'étais assez timide, et plutôt que d'aller avec mes potes de mon âge, j'allais au Muséum d'Histoire Naturelle qui était juste à côté. Et ce muséum s'occupait principalement des serpents. J'ai donc découvert avec un bonheur, avec enthousiasme, j'ai envie de dire une forme d'exotisme à travers ces animaux. Pour moi, le serpent, c'était le danger, c'était quelque chose qu'il faut rejeter. Je rappelle qu'à l'époque, on clouait sur les portes des granges les chouettes pour conjurer le sort, et on écrasait du talon la vipère qui était nuisible. Et donc j'apprends à distinguer la vipère de la couleuvre, et puis un peu plus tard, à prendre une vipère dans la main. Il y a une jolie chanson, « Prends un enfant par la main », ben moi c'était une vipère.
Oui, chacun son truc, bien sûr.
Chacun son truc. Et puis, la question était de savoir si elle allait mordre ou pas. Alors au fond, c'était peut-être une façon de se confronter avec le danger, hein, peut-être, et de vérifier si on était un homme et tout. Mais je crois très honnêtement que j'allais plus loin. Je me disais, elle a la capacité de me détruire, et si je me comporte bien, elle ne le fera pas. Et elle l'a pas fait. Non, enfin, je me suis fait mordre une dizaine de fois en 15 ans, mais bon, j'en suis revenu.
Alors vous êtes quand même retrouvé collé au lycée le week-end, parce que... Ah, on a trouvé des serpents vivants dans votre placard, monsieur Bougain-Dubourg, ça ne se fait pas, on vous l'a déjà dit trois fois.
Parce que j'avais créé un club des jeunes amis des animaux, et donc je récupérais des pauvres esselés de la faune, et notamment des serpents.
Oui. Bon, en tout cas, c'est une véritable passion, on va pouvoir la décliner. En face à vous, Frédéric Danhé, que vous connaissez, hein,
oui. Voilà,
bah oui, donc il va venir avec son actualité, on va dire, canoise, on va y revenir. Dans cette émission, il y aura aussi, et ça je l'ai un peu fait exprès, un jeune garçon de 17 ans qui est fou de nature. Donc vous allez pouvoir vous retrouver à travers ses propos. Ce jeune garçon s'appelle Élie Ducos dans les Hautes-Alpes. Et puis je pense que nous aurons le temps aussi de parler du grand tétra du côté de l'Ariège. Voilà, vous êtes bien sur France Inter, c'est au de mon amour. Il y a aussi de la musique grâce à Thierry Dupin. Paradis, allez.
Fragile.
Divine idylle sur France Inter, c'était Vanessa. Paradis, paradis pour les bouquetins et tous les animaux qui se font flinguer pour rien. Vous êtes bien sûr CO2 mon amour, vous l'aviez compris. Un homme qui adore la biodiversité. Alors une fois de plus, on connaît le truc classique. C'était ah, vous vous intéressez aux animaux, donc vous ne vous intéressez pas aux hommes. Alors ça, c'est un tout petit peu terminé quand même aussi, depuis déjà de nombreuses années, Alain Beaugrain-Dubourg.
Oui, bon, je répète à l'envie que Lamartine avait une jolie phrase pour répondre à cette interrogation. Il disait, il n'y a pas deux cœurs, l'un pour l'animal, l'autre pour l'homme, on a un cœur ou on n'en a pas. Et je constate que les gens qui s'investissent dans la protection de la nature, la condition animale également, sont tout aussi attentifs à l'égard de l'homme. Et j'ai une référence à cela. La Ligue pour la protection des oiseaux, par exemple, par bonheur, reçoit beaucoup de legs. Eh bien, on constate que les legs sont systématiquement partagés entre l'LPO d'un côté et la recherche contre le cancer, que sais-je encore, des aides humanitaires. On voit donc que ça participe de la même démarche, celle du respect.
Voilà, vous êtes absolument dans la même lignée que Mathieu Ricard, qui dit aussi donc la même chose et qui viendra à ce micro d'ici quelques semaines.
Ah, la chance.
Mais absolument, oui, on va le rencontrer là bientôt entre deux passages du côté du Népal, donc on ne va pas se priver de ce plaisir. Pour l'actualité, Frédéric Noé avec nous. Cher Frédéric, bonjour.
Bonjour. Bonjour Alain.
Bonjour Frédéric.
Alors Frédéric, on va revenir évidemment sur ce drame, sur ces inondations dans les Alpes-Maritimes. Plus de 20 morts aujourd'hui. Alors bien sûr, de l'empathie de la part de tous pour celles et ceux qui sont touchés, leurs familles, ça c'est absolument évident. Le bouc émissaire facile, ça a été Météo France.
Hein. Eh ben oui, avant on parlait des sorcières, voilà. Là c'est Météo France comme à chaque fois. Oui.
Bon, donc on sait bien qu'il y a eu des conflits de masse d'eau, des records incroyables de plus de 107 mm, etc. et tout. Mais on est quand même dans une région certes accidentée, mais un tout petit peu urbanisée.
Du tout.
Pas du tout, voilà, absolument. Et donc la cartographie, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Frédéric ?
Eh bien, elle nous dit d'aller voir des films, d'aller voir La main au collet d'Hitchcock ou d'aller voir Ne nous fâchons pas de Georges Lautner, des films qui ont été réalisés dans les années 50 et 60 dans cette région où l'on voit que sur le bord de mer, il n'y avait que des cultures. Pourquoi ? Parce que c'est là, sur le bord de mer et sur le bord des rivières, que les terres étaient les plus riches et sont toujours les plus riches. Et que, compte tenu du fait que les eaux débordaient des deux côtés, au salé et au douce, les gens arrêtaient de bâtir en bordure d'inondation, c'est-à-dire en bordure de champs agricoles. Ensuite, on a voulu développer la région. On a acheté le soleil, la spéculation immobilière, la corruption, les passe-droits, etc. On fait qu'aujourd'hui, cette région ne ressemble strictement à rien. Tout est bâti n'importe comment, sans aucune colonne vertébrale urbanistique. Raison pour laquelle vous avez autant de milliardaires qataris et russes qui, comme vous le savez, sont des amis du beau et aiment ce qui les ramène à leur pays, dans les mœurs qu'ils voient s'organiser devant eux. Et donc voilà, on a une rivière qui déborde, mais qui a toujours débordé, c'est la Brague, comme avant la Siagne, comme l'an dernier l'Argens. On a une rivière qui déborde dans des zones inondables, où donc l'on a construit. Le plus amusant, enfin c'est pas amusant du tout, quand vous vous promenez dans cette région qui ne ressemble à rien, partout vous voyez une végétation qui rappelle qu'on est sur des zones humides, partout se rappelle au bon souvenir des hommes qui savent la voir, partout se rappelle l'eau qui monte de toute façon. Vous avez plein de centres commerciaux qui portent des noms de zones humides par exemple, et l'eau n'a fait que retrouver son lit balayant les hommes.
Oui, parce que lorsque vous avez de l'eau qui tombe de l'arrière-pays ou bien sur place, elle arrive évidemment après vers le bas par effet de gravité, c'est tout simple.
Hein, par effet de gravité, elle arrive aussi d'autant plus vite que, comme vous le savez, il n'y a plus de cantonniers, il y en a de moins en moins. Cantonniers coûtera toujours plus cher qu'un policier municipal armé. Donc on a des petits embâcles, on a des branches qui s'accumulent, que l'on ne vient pas retirer. Et puis en face, au débouché de ces rivières, on a des bourrelets de sable qui s'accumulent parce qu'on a artificialisé les plages, ce qui a modifié la sédimentologie locale. Donc c'est bouché d'un côté, c'est bouché de l'autre. Et quand il pleut beaucoup et violemment, comme de plus en plus en Méditerranée, bien ça monte, et tout d'un coup, ça pète. Et où est-ce que ça va ? Le camping qui est inondé. Regardez bien les cartes, c'est une zone inondable total, qui est protégé, censément être protégé par un plan de prévention du risque inondation.
C'est ça. Alors, donc à la fois des élus vont créer, on va dire, ce plan, et en même temps vous peuvent aussi le dénoncer, parce qu'on est quand même sur... Non, il n'y a pas que, bien sûr.
Il y a des élus qui dénoncent ces PPRI, il y a aussi des associations de riverains, des associations de gens qui sont là, voilà, avec leur résidence secondaire, parce que L'État est un emmerdeur parce qu'il y a trop de réglementations environnementales. Les prescriptions de l'agence de l'eau via les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, les SAG, ne sont pas souvent respectées. Mais de toute façon, quand bien même voudrait-on faire, on ne peut plus. Il n'y a plus un seul espace qui n'ait pas été anthropisé.
Cela dit, c'est joli, qui n'est pas tété, parce qu'effectivement, l'eau a besoin de pénétrer.
C'est pas mal qu'il n'ait pas tété. C'est intéressant.
Mais oui, c'est bien.
Quand on regarde dans le code des assurances ce qu'est une catastrophe naturelle, on est tout sauf dans une catastrophe naturelle. On a un aléa qui est naturel, mais contre lesquels on était censé être prévenu et se prémunir. C'est pas une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe humaine liée à notre bêtise. En termes pudiques, on dit notre vulnérabilité, et c'est pas prêt de changer.
Oui, alors c'est ça le problème, c'est qu'on va avoir une mémoire courte, comme d'habitude, de plus ou moins de poissons rouges, à part que ça va coûter quand même autour de 600 millions avec la petite case CatNat, donc catastrophe naturelle.
Ce qui, d'une certaine façon, pour les assureurs, est une valeur rapprochée de la valeur des sols. Un sol de qualité, un sol dans lequel l'eau s'écoule, n'aurait jamais permis ça, si je veux dire. Donc voilà ce que c'est que de changer l'usage des sols intempestivement entre 550 et 650 millions d'euros. Je vous ai coupé, Denis.
Non, pas du tout. Non, tout à fait, c'est le bonheur des conversations. Alors, solution de demain, puisqu'on ne va pas déménager tout ce petit monde-là, quelques cierges pour espérer qu'il n'y ait pas des conditions climatiques.
De toute façon, ça ne peut aller qu'en empirant. La vulnérabilité augmente via l'étanchéification. Je signale à votre bonne intelligence, mon cher Alain, mon cher Denis, que d'ici 2020, 430 000 km² de nouvelles surfaces commerciales seront bâties.
Chouette.
Quand vous regardez la baie, c'est génial.
C'est formidable.
Ça a commencé. Il y en a une qui a été inaugurée récemment, le polygone Riviera. Figurez-vous que le parking, qui évidemment avait été mis hors d'eau parce que les ingénieurs savent faire, a été inondé.
Bah oui.
Ces 430 000 km² se trouvent tous en zone inondable et tous dans des communes adossées, associées à un plan de prévention des risques inondations. Puis de l'autre côté, on a la même chose à Montpellier avec la nouvelle gare TGV.
Alors ça, on va y venir tout de suite. Donc on rappelle que cette zone-là qui a été inondée était évidemment classée inconstructible. Comme nous sommes en France, on a construit, c'est parfaitement cohérent. Ça, c'est intéressant. Justement, allons du côté de Montpellier, on se décale un petit peu. Vous avez le contournement de Nîmes-Montpellier et dans le quartier Odysseum qui a été créé par Georges Frêche de toutes pièces au sud-est de la ville. Avant, c'était du territoire, 350 hectares qui était recouvert de vignes. Et là, on va se planter, donc c'est très jolie gare.
Alors, Montpellier, c'est quand même un cas rare en Europe où, face à la gare, vous avez les quatre lignes de tramway qui arrivent. C'est un cas quasiment unique en Europe. Donc, on a une offre de transport
qui fonctionne très bien.
On n'a pas de rupture de charge.
C'est vraiment bien, ça.
C'est vraiment bien, c'est remarquable. On va construire une zone là où le monarque local avait décidé de construire une zone. Une zone qui, d'après la SNCF, la gare, n'est là que pour créer un projet urbain. Deux bureaux, évidemment, parce qu'on manque de bureaux. Donc, on a sur le papier 60 hectares, in fine 350. Et le projet de faire aller Montpellier jusque la mer, c'est 1200 hectares. Donc on est en zone inondable, rouge. Alors la gare sera sans doute hors d'eau parce que ça on sait faire, sauf que les places de parking et la majorité des bureaux, eux, ne le seront pas. En tout état de cause, on va donc construire une gare pour 150 millions sur une zone inondable pour faire gagner censément une demi-heure aux passagers, sauf que pour accéder au centre de Montpellier, ils vont devoir mettre une demi-heure si le tramway arrive jusque là.
Super.
Or, il n'est pas financé. Voilà. Oui. C'est magnifique.
Il est prévu, mais il n'est pas financé.
Non, il n'est pas financé, pas encore.
Très bien. Eh bien, écoutez, c'est très bien cette anticipation. Voilà, nous sommes dans un. Bienvenue dans notre pays. Alain, là aussi, ce rapport à la nature, à la biodiversité, on a quand même encore un petit peu de chemin, quoi.
Mais c'est surréaliste, là. En prolongement de ce qui vient d'être dit, je martèle chaque fois que possible que chaque année en France est quand même 80 000 hectares d'artificialisation, c'est-à-dire de béton et d'asphalte qui gagnent sur les terres agricoles et naturelles. Ça représente l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Alors la question, elle est simple. Quelle France voulons-nous pour demain? Il s'agit plus d'arrêter de bâtir, mais peut-être faut-il le faire plus judicieusement et peut-être ne pas s'étendre, continuer à s'étendre de façon irrationnelle comme on le voit, avec en plus les impacts que vous venez d'évoquer.
D'où d'ailleurs aussi ce formidable bouquin que vous avez écrit, qui a un joli succès, mais il faut vraiment continuer. Cessons de ruiner notre sol, chez Flammarion, donc de Frédéric Danhé, qui tire absolument la ficelle avec le foncier. Vous tirez une grande partie, mais vraiment, de la ficelle de notre société.
Le sol, c'est le parent pauvre, en fait, de la biodiversité. On commence à le redécouvrir, avec des gens admirables comme les Bourguignons, etc., et d'autres. On se rend compte que, finalement, la richesse de 50 cm de terre, c'est peut-être plus essentiel. Non pas que les oiseaux, ça va sans dire, mais que le vivant...
Oui, mais ils ont besoin de petits vers qu'ils vont trouver dans le sol.
Tout est lié.
Et oui, tout est lié. Bon, allez, musique, et puis on continue avec vous, Alain. Et puis voilà, ce voyage aujourd'hui en biodiversité, en coup de gueule, en coup de cœur.
Les clients qui attendent, ils viennent pour l'homéopathie ou l'allopathie?
Touche pour l'homéopathie, madame.
Alors, messieurs, dames, si vous êtes venus pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Sinon, c'est moi qui vous fais sortir un coup de pied au cul, d'accord? Parce que mon mari, il est allopathe.
CO2, mon amour.
Je reviens de la banque, on a un découvert de 20 briques. Grâce à quoi? À l'homéopathie. Avant, quand il était allopathe, il voyait entre 60 et 70 personnes par jour, 10 minutes chacun, une bonne grosse ordonnance bourrée de médicaments, paf, c'était emballé. À 150 francs par personne, vous n'avez qu'à faire le compte. Maintenant qu'il est homéopathe, il voit plus que 10 personnes par jour. Il passe une heure avec chaque client, hein, une heure.
Sur France Inter.
Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand?
Marvin Gaye, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur sur France Inter. C'est du beau, c'est du bon, c'est comme Bougain Dubourg, c'est comme Frédéric Danhué. Donc cet ouvrage, Alain, donc il faut continuer de marcher. Les mémoires, vaut mieux s'y rédiger soi-même que de laisser faire ça aux autres.
Je trouve que c'est fait tout seul comme un grand.
Ça, mais je sais très bien. Et puis en plus, c'est bien écrit. Non, mais ça, c'est très très agréable. Alors il y a tout, il y a toutes vos histoires, il y a vos amours aussi. Mais ça, on va pas partir forcément là-dedans. En revanche, tenez, moi je reviens quand même sur votre actualité parce que là, vous sortiez d'un colloque oiseaux et réchauffement climatique. Vous vouliez en dire un petit mot?
Oui, c'était ce matin, après une journée hier de travaux, qui a réuni des experts internationaux au Muséum d'Histoire Naturelle. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on voit? D'abord que l'oiseau est un indicateur du dérèglement climatique. C'est avéré. Là où il est présent, la biodiversité s'épanouit. Quand il disparaît, elle est en déclin. La deuxième chose, c'est que depuis plus d'une dizaine d'années, on a maintenant des éléments qui nous prouvent qu'il y a un réchauffement climatique et que les oiseaux sont ou non affectés de cette situation. Alors par exemple, il y a le héron garde-bœuf. Bon, ben, ceux qui ont eu la chance d'aller en Afrique, il est partout présent et il n'était que dans le sud de la France. On le retrouve maintenant en Picardie, voire jusqu'aux Pays-Bas. La cigogne blanche, qui partait pour de longues migrations, il y a plus de 700, peut-être 1000 individus qui restent sur le pourtour méditerranéen maintenant. Il y a même des hirondelles qui restent. Alors le problème des hirondelles, c'est que s'il y a un coup de froid au mois de février, oui, elles sont dézinguées en 8 jours parce que elles n'ont plus rien à manger. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient, ce réchauffement? C'est un avantage pour beaucoup d'oiseaux qui n'ont plus à s'engager dans ces grandes migrations meurtrières. Je le fais simple, et ça peut être un inconvénient parce que on voit bien, comme je l'ai dit, par exemple pour les oiseaux insectivores qui sont dépendants donc de la ressource, que s'ils n'ont pas la ressource,
il y a un décalage entre le moment de la naissance de l'oiseau.
Alors ça, c'est un gros problème. Oui. Vous avez des oiseaux qui reviennent à heure fixe, j'ai envie de dire d'Afrique, mais la pointe, le pic de naissance des chenilles ici chez nous est anticipé de 15 jours, 3 semaines. Moyennant quoi, au moment où les oiseaux qui reviennent d'Afrique font leur poussin, il y a beaucoup moins de chenilles, voilà, donc beaucoup moins de ressources alimentaires. Et de tout cela, pour faire court, on retient deux choses. La première, c'est que la science participative, et c'est un témoignage scientifique américain qui nous l'a indiqué, c'était remarquable, est indispensable. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'amateurs éclairés sans lesquels la science n'existe pas. Et donc, toutes les informations qui sont données, y compris par les gens qui ont quelques mangeoires, nichoirs dans leur jardin, sont très utiles à la science. Il faut développer la science participative, lui donner les moyens, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on réduit les budgets du ministère de l'écologie lors de l'année de la COP21. Et puis, deuxième chose, il faut d'ores et déjà penser à redéfinir les lieux où il y aura des réserves, des zones de repos, oui, de reproduction pour les espèces, parce qu'on voit bien que tout bouge. Bien d'autres choses encore. J'ai envie de dire que le dérèglement climatique s'ajoute aux contraintes dont on a parlé et qui touchent l'ensemble de la faune. L'artificialisation, l'arrivée des espèces invasives, la perte des milieux naturels, les zones humides, que sais-je encore. Et je dirais que ce matin, on a communiqué également sur la chasse. On a vu que la chasse avait un impact sur le nouveau comportement des oiseaux chassables. Voilà, je ne vais pas le développer, mais c'est un vrai problème.
Voilà. Et donc, tout à l'heure, on va faire un petit tour du côté du grand tétras, si c'est possible. Et donc, dans cet ouvrage, bah, vous développez évidemment tout cela, aussi d'ailleurs vos combats, parce que vous faites partie des gens à la fois sensibles, aventuriers, mais qui mouillaient votre chemise. On le sait, je veux dire que vous êtes allé dans les Landes, vous êtes aussi, non, mais le col de l'Escrinet aussi du côté de l'Ardèche, je vous connais comme très prendre des baffes, absolument. Le col de l'Escrinet du côté de l'Ardèche, je vous connais aussi donc très très bien. Simplement d'essayer de faire vaguement respecter le droit, c'est peut-être ça aussi qui est derrière. Et alors, vous êtes dit quand même dans votre carrière, et ça je rejoins évidemment cet ouvrage, il faut continuer de marcher, vous n'ayez pas de bac, vous n'ayez pas de diplôme, vous aimiez évidemment les animaux, donc comment vivre pour et avec les bêtes sans forcément être vétérinaire? Voilà, ça a été ça. Et puis alors, vous y êtes arrivé, et ça c'est intéressant. Alors je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait y arriver de la même manière, parce qu'il faut des tonnes de diplômes, mais bon.
C'est une époque où on pouvait à peu près gagner. Je me souviens, j'allais dans les Halles, je vidais un camion de légumes, et on me donnait 2 sous 3 ronces, on me demandait mes pièces d'identité et tout. On avait quand même un peu de latitude, et puis il y avait beaucoup, si ce n'est tout à faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire de cette passion un métier, mais j'encourage, parce que je reçois beaucoup de demandes à ce propos, j'encourage les uns et les autres à avant tout s'investir dans les études, parce qu'on a besoin de gens qualifiés. Et on me demande parfois finalement quel est votre vous êtes fier de quoi, de tous ces combats, les tourterelles, que sais-je, les ricales, le préjudice écologique et bien d'autres choses. Ben je suis fier d'avoir passé le relais. Il y a beaucoup aujourd'hui de vétérinaires, de biologistes, de gens qui sont investis dans cette cause et qui m'ont dit, j'ai vu Animalia et je me suis dit un jour, ça je le ferai. quel bonheur! Non seulement j'ai pu partager une passion, mais j'ai passé le relais. Je crois que ça donne un sens à la vie.
Alors vous avez été absolument des pionniers dans ce domaine pour vous avoir fait aussi aimer les animaux. Bien sûr, vous n'êtes pas le seul, mais quand même. On a retrouvé Marie-Laure Cambus, qui est la directrice de France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Bonjour à vous, Marie-Laure.
Bonjour.
Alors, quelques mots justement, parce que sur les effets de l'achat, c'est pas qu'on soit obsessionnel, mais quand même.
Non, à peine.
Voilà, donc dans l'Ariège et les Hautes-Pyrénées, vous avez une grosse poule qui s'appelle le grand tétras. Ah, et là, le grand tétras, il est où? Il est dans les Pyrénées. Les Alpins, ils ont que le tétras. Ah, pour une fois, ils ont que le tétras. Bon, et ce grand tétras, en fait, la population est en danger, racontez-nous.
Oui, alors le grand tétras, en fait, il est sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. On le retrouve plus particulièrement au centre de la chaîne des Pyrénées, puisque dans les Pyrénées Atlantiques et les Pyrénées Orientales, il est en grande difficulté. Et les menaces qui portent sur le grand tétras sont de plusieurs ordres, notamment l'urbanisation, donc les pistes forestières, le développement des stations de ski, mais aussi également toutes les activités toutes les activités de sport d'hiver, les raquettes, le ski, toutes ces activités-là, et également les clôtures des pâturages et qui vont gêner le déplacement des grands tétras. Et puis un des derniers facteurs qui est un facteur un peu handicapant supplémentaire, c'est la chasse, qui impacte encore davantage le grand tétras, qui a du mal à se remettre un peu de tous ces embûches successives.
Oui, non, c'est un parcours du combattant que d'être grand tétras, on l'entend bien. Les trophées de grand tétras sont estimés à combien en termes de valeur? Vous l'avez vu ça passer?
Oui, alors en fait, le grand tétras, c'est l'animal le plus patrimonial de France. Donc ça, c'est une étude qui a démontré ça en 2012. Et je crois que la valeur est de l'ordre de 6000 euros. Ah oui. Donc c'est des trophées qui sont conservés par les chasseurs, donc devant leur cheminée. C'est des trophées de chasse et qui ont une valeur symbolique qui est très forte du fait aussi de la rareté et de la beauté de cet oiseau.
Mais comme d'habitude, c'est toujours c'est toujours la rareté. Voilà. Donc, il vous écoute avec beaucoup d'intérêt, Alain, sur ce thème.
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un oiseau si fragile qui bénéficie aujourd'hui d'un plan national d'action visant à le préserver, qui doit aller en principe jusqu'à 2021, et que globalement il y a 4500 individus grand tétras, dont 90% dans les Pyrénées dont on vient de parler. Et c'est précisément dans les Pyrénées qu'on le chasse. On marche sur la tête. Mmh. On marche sur la tête. Et alors, les chasseurs nous disent, mais attendez, si vous nous laissez pas chasser le grand tétras, nous, on arrête d'entretenir la forêt pour qu'il s'y trouve bien. Déjà, je trouve que c'est pas très élégant comme démarche. Mais moi, je réponds aux chasseurs, s'ils veulent arrêter de gérer la forêt pour qu'il s'y trouve bien, nous, on va s'en occuper, les associations de protection de la nature. On a déposé 22 plaintes depuis 2011, on les a toutes gagnées. Et on vient à nouveau d'ouvrir. Alors, je rends hommage à l'Office national des forêts qui a quand même fait, laisse la chasse, mais quota zéro. C'est-à-dire que sur les forêts domaniales, on n'a pas le droit de le tirer. Mais voilà encore un exemple. Je parlais du grand discours d'en haut et de la réalité d'en bas.
Marie-Laure,
et chapeau aux gens qui sont dans les Pyrénées, qui se battent admirablement.
Marie-Laure Cambus, un tout petit mot de fin sur ce thème?
Oui, pour dire que justement, hier, on a gagné en justice l'arrêt de la chasse au grand tétras. Donc, dès demain, la chasse au grand tétras dans les Hautes-Pyrénées ne sera plus autorisée, puisque justement, il y avait des autorisations qui étaient données, alors que les populations n'étaient pas suffisantes. Et donc, la justice a estimé qu'effectivement, la chasse n'allait pas dans le sens de la stratégie nationale du grand tétras. Donc les associations sont là aussi pour agir, pourquoi pas entretenir les forêts, mais aussi pour agir en justice et faire en sorte que la biodiversité soit respectée partout.
C'est bien pour ça qu'il faut soutenir évidemment les associations comme on le peut, donc les uns et les autres, on le dit, on le redit devant ce micro, que ce soit les petites, les grandes, etc. Donc je le rappelle, Marie-Laure Cambus, donc directrice de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, donc qui regroupait bon nombre d'associations. Une femme que vous avez rencontrée, je trouve ça très intéressant, je ne savais pas ça Alain, dans votre ouvrage, il faut continuer de marcher, c'est Saint-Augustin, non je crois pas, non effectivement.
Non parce que je vais très proche pour
vous
toi.
Êtes très proche.
Non, mais on perd moins ce perdre dans sa passion qu'à perdre sa passion.
Parfait. Vous l'avez
Saint-Augustin.
Dit.
C'est ça que vous voulez.
Oui, non, c'est ça. Bon, mais Marguerite Yourcenar, vous l'avez rencontrée avec Terre des Bêtes. Cette femme, donc, à la fois, évidemment, amoureuse du Maine, mais originaire, donc, du nord de la France. Et elle avait aussi, donc, cette passion, ce respect du aux animaux comme philosophie de vie.
Oui, elle était d'abord très, très charmante, très accueillante. Elle se lâchait, elle se livrait, et ce qui m'avait frappé, c'est que elle a une passion pour les animaux et une vraie connaissance qu'elle a acquise notamment au Canada. Je m'étonnais qu'elle soit pas en première file. Et elle me disait, mais Brigitte Bardot le fait si bien, elle s'entendait bien toutes les deux, que je lui laisse ce travail. Mais moi, chaque fois que je peux agir, je le fais. Et j'ai le souvenir d'une bien jolie formule. Elle était évidemment végétarienne et elle m'avait dit, je refuse de digérer l'agonie des animaux.
Pas mal.
Voilà, tout est dit.
Ça calme. Bon, alors, la passion, évidemment, n'atteint pas le nombre des années. Vous avez commencé à aimer ça autour de 10 ans.
Oh, oui.
Écoutez ce garçon, donc, il s'appelle Élie Ducos. Il a 17 ans aujourd'hui. Je vous propose un petit portrait dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique ?
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine ?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique ?
Ça, oui, un peu... Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ?
Ils disent qu'on mange de la merde.
Parole de jeune.
Ah, petit coq ? Oui, des chèvres aussi ? Ben oui, et puis surtout Élie Ducos. Bonjour Élie.
Bonjour Denis.
Et en fait, t'es un garçon qui adore cette nature, qui adore donc l'environnement.
Et ouais,
nous sommes chez toi dans les Hautes-Alpes, dans le Briançonnet. Alors, où sommes-nous exactement là ?
On est sur la commune de Villars-Saint-Pancras. Donc on a un grand site avec un canal qui traverse. Donc là, on est au pied d'un rocher qui s'appelle le rocher des Aymars. Et puis, on est en face de la montagne du Prorel avec... on a Puy Saint-Pierre, Puy Saint-André.
Ah, c'est un petit lieu quand même à toi. Hein. Tu souhaitais nous emmener là, ici.
Voilà, exactement. Ouais. Ouais, parce que ça paraît quelque chose de classique. C'est limite entre le village de Villars et puis la ville, quoi. Il y a la nationale en dessous, la voie ferrée. Bon, ça paraît pas... tellement intéressant.
Et pourtant, ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, et il y a des tas de choses là.
Niveau oiseaux, par exemple, c'est...
c'est top.
Vraiment, c'est top. Par exemple, bon là, on est un peu tard, mais au printemps, là, juste au sommet du rocher au-dessus de nous, on a l'ortolan, bruyant ortolan, qui chante. Donc c'est quand même un privilège de l'avoir ici.
Passion de jeune. Il s'appelle Élie Ducos. Il a 17 ans aujourd'hui. Donc, il est fou des oiseaux, mais pas que. Nous sommes dans ce très beau territoire des Hautes-Alpes. Quel Briançonnet. Et alors, ce jeune garçon, c'est son truc, la nature. Alors, il y va. Il regarde, il respire, il va nous faire partager donc ce lieu. Et ce qui était intéressant, c'est que après il le retranscrit aussi sur une petite radio locale. Voilà, il va passer son bac parce qu'il écoutait quand même Bougain du Bourg. Donc il va quand même passer son bac. Et puis autour de nous, nous avions ces mélèzes qui aujourd'hui commencent à être roux. C'est très très beau parce qu'il fait partie de ces résineux, vous savez, qui perd ses plumes, si j'ose dire. Et là nous avions tourné ce sujet il y a pas longtemps. C'était donc à la fin août. Portrait de ce jeune, 17 ans, Élie Ducos, dans les Hautes-Alpes. Petit chemin, délicieux, tout simple. Petit chemin comme il y en a plein en France, là, qui serpente gentiment.
Au bord du canal.
Et alors, t'es tombé là-dedans, c'est venu comment ? Voilà, c'était quoi ? C'était les parents ?
Tout le monde, quand j'étais petit, je m'intéresse aux insectes. Donc, en farfouillant dans la terre et dans les herbes, on tombe dans les insectes. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser aux oiseaux. Après, je suis arrivé au groupe de la LPO, la Ligue pour la Protection des Oiseaux à Briançon. Là, c'était le déclic.
Qu'est-ce qui te plaît, toi, ce rapport à la nature ? Est-ce que tu es immergé là-dedans ? C'est ce que tu aimes ?
J'aime bien être tout seul.
Avoir une solitude choisie pour les observations.
Bon, après, c'est sûr qu'avec les bénévoles du groupe, on va faire des observations. Ouais. Chacun a des compétences diverses. Et voilà, finalement, on est un groupe d'amis et... On partage en fait notre passion ensemble.
Il y a cette passion, et puis peut-être si on élargit, il y a aussi peut-être ce rapport à la nature. C'est-à-dire que, on voit bien qu'il y a quand même une perte de biodiversité. Pas partout,
même ici.
Voilà, donc.
On en perd et on en gagne, ça dépend. On voit des oiseaux ici qu'on ne voyait pas, ou même des papillons qu'on ne voyait pas il y a, 10, 15 ans.
D'ailleurs, tu as ton filet à papillons. Voilà, on ne voit pas la radio, mais il est là.
Voilà, il est là, c'est vrai, exactement. ce printemps, on a eu une découverte. Je me promenais comme ça par hasard et en fait j'ai trouvé un peu plus loin là un bruant mélanocéphale. Donc, alors ça dit peut-être pas grand-chose.
C'est une maladie ou pas ?
Non, non, pas du tout. C'est un oiseau et donc c'est un peu exceptionnel puisque il vit dans le sud-est de l'Europe.
Ouais.
En fait, il y a une petite population en Lombardie, dans le nord de l'Italie. Puis sinon, c'est tout un oiseau qui vit dans les Balkans. Et en fait, au printemps, on a eu trois bruants mélanocéphales qui ont passé un mois ici, sur le site.
Bah, quand on est ornithologue comme toi, c'est sûr que ça doit faire un choc, comme on dit, on a coché, hein, c'est ça,
voilà,
c'est le terme des ornithologues lorsqu'ils voient un nouvel oiseau.
Ce qui est quand même assez formidable, c'est que cet oiseau, il a besoin vraiment de conditions écologiques vraiment particulières. Donc il a besoin d'un endroit qui est chaud et sec, mais il n'aime pas trop la sécheresse. Et se dire qu'on est cet oiseau à cet endroit,
ouais,
bah, ça prouve qu'on a quand même des conditions écologiques
Qui sont bonnes.
Voilà, qui sont bonnes et bah, ça fait plaisir.
T'as envie aussi quand même de t'engager, d'en faire ton métier, parce que là tu vas aller en terminale.
Voilà. Et ensuite, je pense faire un BTS GPN, gestion et protection de la nature. Et
explique-nous, ça mène à quoi donc
Il y a beaucoup de portes ouvertes. Enfin, ça peut donner des portes ouvertes, je sais pas, pour être animateur nature, garde, moniteur dans un parc national ou un parc régional.
Mais c'est là-dedans que tu veux être.
Voilà, ça c'est sûr. Ouais. Parce que aujourd'hui, il y a urgence et puis la nature, déjà, on en a besoin. En fait, on se rend pas compte comme ça nous fait du bien d'être dans la nature. Moi, je sais, j'étais en Ardèche ce matin encore. Et des fois, le soir, à ma fenêtre, j'écoute et il n'y a aucun bruit, à part un ou deux grillons qui chantent. La nature sauvage, je trouve que ça fait du bien. Et puis,
ça lave.
Voilà, c'est ça.
Alors, si on se retourne, on a aussi un lieu formidable qui est le bois des Ailes.
Ah, ça, c'est...
Quelques mots alors, sur ce bois
génial.
Des Ailes.
Ah, bah, c'est une réserve biologique et c'est une grande forêt, une sambraie, c'est une forêt de pins sambreaux.
Ouais.
Et c'est un endroit qui est vraiment c'est magique. Quoi. C'est très tranquille, c'est super beau. Alors, c'est sur la commune de Villars-Saint-Pancras, au fond de la vallée des Ailes. Ouais, c'est vraiment, je sais pas comment dire, c'est un petit paradis, quoi.
Comment tu vois cette frénésie aujourd'hui, donc consommatoire, où d'un côté on dit oui, alors faut faire attention à la nature, faut faire attention au climat, puis de l'autre côté, bah surtout continuer à consommer pour faire monter le PIB. Enfin, bon, on est tous plus ou moins quand même dans des contradictions.
Exactement, j'allais dire exactement la même chose. Je trouve qu'on est dans une contradiction un peu permanente en fait, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'indignent, je sais pas, sur le changement climatique ou quoi, mais en parallèle, ils font pas grand chose. Quand je vois le nombre de voitures qui circulent tous les jours dans Briançon avec une seule personne dedans, je sais pas, est-ce qu'ils pourraient pas y aller à pied, en vélo, ou prendre le bus, ou faire du covoiturage, je sais pas. Faut essayer d'être optimiste, mais c'est dur finalement. Commencer à agir, c'est peut-être commencer à se passer de la voiture et trouver autre chose, par exemple. Là, sur la nationale qui est en dessous de nous, bon, il y a quand même y a de la circulation. Le changement climatique, on ne peut pas dire que c'est pas dû à la voiture ou même au mode de transport. C'est quand même une grosse part dans le changement climatique. Surtout nous, dans nos montagnes, on est encore plus touchés. On pourrait se dire, je sais pas, on peut essayer de trouver un carburant alternatif ou on peut essayer de rouler en vélo électrique. Moi, c'est mon rêve plus tard. J'ai pas du tout envie de voiture. Je préférerais un vélo pour me déplacer. Et puis après, avec le train ou quoi, on s'arrange. Nous, notre autre petit paradis dans le Briançonnais, c'est la réserve des Parcias à Puy-Saint-André.
Au-dessus de Puy-Saint-André.
Voilà, au-dessus de Puy-Saint-André. Alors, ça, c'est vraiment un endroit qui est top, co-géré par la mairie de Puy-Saint-André et puis la LPO. Il y a par exemple le tétralyre, le lagopède, tous des oiseaux menacés.
Fragilisés, bien sûr.
Voilà, par le changement climatique.
Voilà.
Aussi par le ski de randonnée, par exemple. Mmh. Et donc, en fait, on participe en fait à la gestion de la réserve.
C'est concrètement, génial. Qu'est-ce que tu fais ?
Et ben, par exemple, il y a un stagiaire qui a répertorié toutes les zones d'hivernage des tétras en hiver, puisque les tétras ils font un igloo sous la neige.
Sous la neige.
Quand il y a un skieur
qui leur fait une protection,
un
isolant.
Et quand il y a un skieur qui passe, il s'envole et ça leur cause des problèmes, ils dépensent de l'énergie, etc. On a mis en place donc ces protections, c'est des fanions en fait montés sur des cordes. qui incite les skieurs en fait à contourner. Mmh. Et ça a déjà été fait dans plusieurs endroits en France et apparemment ça porte ses fruits, puisqu'après, chaque printemps, on fait le comptage des tétras chanteurs.
Il y a beaucoup moins de pertes.
Il y a beaucoup moins de pertes cette année, le nombre de coqs chanteurs a augmenté. Donc c'est preuve que ça porte ses fruits. Puis par exemple aussi en ce moment, on est en train de commencer un diagnostic forestier. Deux stagiaires, deux services civiques à l'LPO qui le font, et puis de temps en temps je vais aider. Et donc ça consiste en fait à mesurer l'état de santé de la forêt, donc le bois d'aval c'est un mélézin, avec un protocole précis pour pouvoir orienter après la gestion sylvicole et puis regarder comment évolue la forêt, puisque c'est un protocole qui sera répété dans 10 ans au même endroit. Quoi.
Grand merci Élie, et puis bonne suite. Hein. On va partir en vélo avec le filet à papillons.
Exactement, oui.
Voilà, le casque, et puis tout va bien.
Et ben, au revoir Denis, et puis à bientôt.
C'est pour ça qu'il faut croire dans le jeune, parce qu'il n'avait pas 17 ans là, donc à ce moment-là.
Ouais, ouais. C'était un très beau témoignage. Moi, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il est curieux de nature, voilà. Tout simplement. Et voyez-vous, quand on a vu le monde rural gagner la ville en moins d'un siècle, ce monde-là a perdu l'usage de ses sens. Il a perdu la potentialité à écouter, à caresser, à goûter, à regarder, à entendre, que sais-je encore. Et c'est une richesse exceptionnelle que de disposer de ses sens, d'en user, notamment à l'égard de la nature. Et donc c'est très dommage, il faut réapprendre tout ça. Voilà, ça coûte pas un rond, mais quel bonheur à la clé.
Il s'appelle Élie Ducos, donc du côté de Briançon, pas loin de Puy-Saint-André. Et ça nous fait évidemment le plus grand bien. D'ailleurs, vous n'hésitez pas non plus sur le site franceinter.fr, sur le site de CO de Mon Amour, ou bien aussi en m'écrivant un petit courriel. Je cherche régulièrement. On va mettre la parole de jeune, on en met régulièrement dans cette émission, mais voilà, on alimente, donc n'hésitez pas, quels que soient les domaines, écrivez-moi, et puis si on doit se faire un petit reportage, ben ce sera avec grand, grand plaisir. Alors de la montagne, on va passer à la mer. Ah oui, on passe à la mer avec vous Alain, parce que Montamer, ça c'est le lieu familial, c'est votre île de Ré chérie, et cette mer qui est inscrite, on va dire, avec force dans vos racines. Là aussi, beaucoup de choses partent de là.
Oui, le petit village, j'ai presque envie de dire qu'il m'a vu naître, mais je suis arrivé dans l'île de Ré la première année de ma vie à une petite crique qui s'appelle Montamer. Alors on ne sait pas si on monte à la mer ou si la mer a monté.
Ouais, elle l'a fait. Hein.
C'est un lieu, elle l'a fait avec Cynthia, 1m30, ouais. Hein, oui. Mais au-delà, c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Il y a par exemple une princesse espagnole qui devait naufrager dans une grande tempête dans ce petit village, enfin à Montamer. Et puis elle a dit que si elle s'en tirait, elle construirait une petite chapelle. La chapelle a été construite. C'est un endroit où j'ai failli me noyer avec mon père. On était tous les deux. Le bateau s'était retourné. On a eu des rapports humains très, très forts à cette occasion. C'est l'endroit aussi où j'allais ramasser les premiers cadavres d'oiseaux mazoutés, des morceaux de crâne, de crabe, etc. Et j'en faisais un petit musée. Voilà, j'essayais de mettre des noms latins sur ces animaux improbables ou ces morceaux d'animaux que je ramenais. Et je voulais faire comme un muséum d'histoire naturelle. Je voulais avoir mon propre musée. Et donc, c'est sur la plage, avec ces marais, que j'obtenais tous les éléments nécessaires à mon musée.
Voilà, alors ça vous le racontez très bien dans Il faut continuer.
Beaucoup mieux que je viens de le dire, du reste. Hein, c'est bien écrit.
C'est pas vrai. Vous parlez très bien. Faut pas vous dévaloriser, mon gars. Non, tout va bien. Et tenez, il y a un homme que vous avez rencontré. On va écouter sa voix, parce que vous lui devez aussi une partie de la bourse de la vocation.
Vous en recevez beaucoup à la fois?
Ça dépend. Actuellement, j'en ai très peu. J'en attends tout à l'heure une cinquantaine. Mais enfin, pour moi, c'est extrêmement peu de choses. Et à certains moments, j'en reçois 1000, 10 000. Il m'est même arrivé d'en recevoir 70 000. C'était un peu trop, même.
Qu'est-ce qu'ont dit les habitants de Ville-d'Avray en voyant 70 000 crapauds arriver chez vous?
Ils ne les ont pas vus. Ou du moins, ils ne les ont pas vus en bloc et vivants, n'est-ce pas? Ces 70 000 crapauds ont été déversés par un camion dans mon jardin, et les habitants de Ville-d'Avray l'ont vu, que les crapauds rescapés qui s'enfuyaient de mon jardin, et un peu trop de cadavres dans le voisinage.
Qu'est-ce que dit Madame Rostand et qu'est-ce que dit votre fils de tous ces crapauds?
Ils sont habitués, ils n'en ont aucune peur et aucun dégoût, ils les manipulent comme moi.
Jean Rostand, fils d'Edmond, qui avait aussi des rapports forts donc avec son père. Alors donc vous l'avez rencontré, hein.
Oui, il a eu la gentillesse de m'ouvrir sa porte à Ville-d'Avray et il me recevait alors que j'avais 18-20 ans avec la même attention que les grands de ce monde à l'époque, directeur du Palais de la Découverte, dernier auteur scientifique en date, etc. Et il a toujours été très sensible, bien qu'il fait de l'expérimentation animale, à la condition animale. Il s'est vraiment battu, et moi jusqu'à son dernier moment, il m'a accompagné dans mes combats. C'était un type admirable, ces grands personnages que j'ai eu la chance de rencontrer, je pense évidemment à Théodore Monod et quelques autres encore.
Et Théodore Monod, vous lui devez aussi le titre de cet ouvrage, Il faut continuer de marcher, c'était ce qu'il disait.
Voilà, je l'ai rencontré 3 jours avant sa mort à peu près, il était très faible, il n'arrivait pas à parler, dans un dernier souffle, il m'a dit, quand je lui ai raconté tous les combats que nous conduisions, « Alain, il faut continuer de marcher !»
Voilà.
Et voilà, j'ai pas oublié.
Évidemment. Et c'est ce que l'on va faire, et on continue, voilà, entre les coups de gueule et aussi les coups de cœur, donc n'hésitez pas à franceinter.fr, hein, le site à votre disposition, vous en avez l'habitude, le podcast pour quand vous voulez, et puis ça va être diffusé aussi, c'est entre 4h et 5h du matin. Il faut continuer de marcher, les éditions de La Martinière, les mémoires d'Alain Bougrain-Dubourg. Merci à Claire Destacan, à Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, Charles Danet, Ludovic Assou à la technique, Anne Gouzon qui nourrit les sites. On parlera de ville la semaine prochaine, et merci toujours aussi à Frédéric dans et
de rien, Denis Jessou.
Questions d'auditeurs et vos questions 01 56 40 40 35.